les enfants de Cronos.
Bonjour à tous, je suis Germain Cuvillier du service départemental d'archéologie de l'Oise. Bienvenue dans notre premier épisode de la série consacrée à la découverte ou à la redécouverte de certains sites au niveau du hameau de Chanlieu. Alors le hameau de Chanlieu est surtout connu d'une part pour ses ruines romaines et d'autre part pour son église en ruine. Il est situé au sud de la forêt de Compiègne, sur un plateau qui domine la vallée de l'Automne. Ce hameau fait partie désormais de la commune d'Auruy. Alors ce premier épisode de la série est consacré aux ruines gallo-romaines de Chanlieu. Ces ruines sont connues dans les écrits depuis le XVIe siècle et sont alors considérées comme celles d'un camp romain. Il faut attendre le XIXe siècle et la visite de Napoléon III en 1857 pour que les premières fouilles archéologiques officielles soient menées par Eugène Viollet-le-Duc, puis Albert de Roussy. Alors il dégage non pas un camp, mais une partie du centre monumental d'une agglomération secondaire antique, c'est-à-dire d'une petite ville, composée de trois édifices, un temple, un théâtre et des thermes. Le site acquis par l'État est presque immédiatement classé monument historique. Il faut dire que dans l'Antiquité, Chanlieu est l'agglomération la plus occidentale du territoire du peuple des Suétions. Elle se situe sur un plateau dominant, je l'ai dit, la vallée de l'Automne, et elle se trouve à la limite du territoire du peuple des Bélovaques à l'ouest et de celui des Sulbanectes au sud. Elle est érigée de part et d'autre de la chaussée Bruno, une voie romaine reliant les villes de Senlis à Soissons. Sa position frontalière et sa situation font de Chanlieu un lieu de passage important. Cette agglomération secondaire, qu'on appelle Vicus, se développe du 1er siècle avant Jésus-Christ jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Mais le nom de ce Vicus reste inconnu. En effet, sur deux documents antiques connus, l'itinéraire d'Antonin du 2e siècle et la Notitia Dignatum Tatum, du 4e siècle, un grand nombre de cités est mentionné, mais celle de Chanlieu n'y figure pas. Le centre monumental dont les ruines sont encore visibles aujourd'hui date, selon les différentes campagnes, de fouilles du 2e siècle après Jésus-Christ. Alors, pour donner une petite description du site, commençons par le sanctuaire, au centre duquel on trouve le temple. Chez les Romains, le temple est un lieu sacré qui abrite une divinité. Les fidèles s'y rendent avec des offrandes, ce qu'on appelle les ex voto, afin que leur dieu apporte une réponse à leurs souhaits de guérison ou d'ordre spirituel. Les prêtres sont les garants d'un certain nombre de rites dont le but est également, au nom d'une communauté, d'adresser des demandes ou des remerciements aux dieux. Le temple est observé pour la première fois lors de fouilles en 1850, puis entre 1977 et 1981 lors de campagnes de fouilles dirigées par l'archéologue Georges-Pierre Voimont. Elles mettent en évidence cinq états différents du temple et une occupation du site allant de l'époque gauloise, donc du 1er siècle avant Jésus-Christ, jusqu'au 4e siècle après Jésus-Christ. Les deux derniers états du temple sont associés à des décors monumentaux, peintures murales, bas-reliefs, chapiteaux corinthiens, mosaïques au sol, à motifs géométriques. De la dernière face du temple, qui formait un carré de 22 mètres de côté, on peut aujourd'hui apercevoir une partie du podium sur lequel il s'élevait. En restitution, la hauteur du temple est estimée à environ 20 mètres. Il respecte le plan du fanum, à double carré qui parsème les Gaules. Alors le fanum, c'est une sorte de chapelle. On y trouve une sorte de chapelle centrale, ouverte à l'est, dans laquelle se trouve la statue d'une divinité. Cette salle, on l'appelle la cella. Et elle est entourée par une galerie périphérique. Le temple de Chanlieu est également équipé d'un porche d'entrée monumental, qui est éparé de piliers massifs, richement sculptés, représentant notamment des figures mythologiques, dont quelques fragments sont conservés au musée Antoine Vivenal de Compiègne. La scène mythologique la plus célèbre représente, et dont les représentations encore conservées sont rares, représente donc Thétis plongeant son fils Achille dans les eaux du Styx en le tenant par le talon afin de le rendre invulnérable. D'une manière générale, le dernier état du temple est associé à un décor sculpté d'une grande qualité. L'espace sacré où se trouve le temple est clos par un portique, c'est-à-dire par une galerie couverte et bordée au moins sur un côté d'une colonnade, qui marque la séparation entre le sanctuaire et le monde profane. Le sanctuaire est lui-même enserré par un mur bien plus grand qui délimite ce qui pourrait être une place publique. Alors, immédiatement au sud de cet ensemble, on trouve un important théâtre de 71 mètres de diamètre, Contrairement à beaucoup de théâtres antiques, dont les gradins étaient adossés à des promontoires ou à des buttes naturelles dans lesquelles ils étaient creusés, celui-ci est soutenu par un mur d'environ 5 mètres de haut, consolidé par 30 contreforts. Sa restauration, au XIXe siècle, en fait le seul monument du site encore en élévation. Les différents espaces sont donc aujourd'hui encore appréciables, avec les traces du mur de scène, la scène, qu'on appelle Scena, l'orchestra, où se trouvaient les musiciens, et les niveaux de gradins desservis par des vomitoires. À ces éléments, il faut ajouter un niveau supplémentaire de gradins, réalisé en bois, desservi par plusieurs escaliers, ménagés dans les 6 espaces rectangulaires, se trouvant au dos de la galerie demi-circulaire qui dessert les vomitoires, qu'on appelle la corona. Aujourd'hui, on voit encore quelques niveaux de gradins en pierre au bord de l'orchestra. Pour autant, il est presque certain que la grande majorité des gradins étaient en bois. On évalue la capacité du théâtre entre 3 et 4 000 places. D'après les études d'Albert Grenier, le théâtre est daté du 2e siècle après Jésus-Christ. Par ailleurs, un sondage effectué par Georges-Pierre Voimant, au pied d'un des contreforts, ouest du théâtre, a confirmé l'existence d'au moins 3 niveaux romanisés antérieurs à la construction du théâtre, et datés du 1er siècle après Jésus-Christ. Enfin, à un peu plus de 20 mètres au sud du théâtre, on trouve les thermes, également datés du 2e siècle après Jésus-Christ, d'après les diverses opérations archéologiques. Alors les thermes forment un rectangle de 53 mètres de long et de 23 mètres de large, et se divisent en plusieurs espaces. Une grande cour à portique interne, servant de lieu de promenade, qu'on appelle atrium, un couloir transversal, servant de vestiaire, apoditerium, et une succession de salles, dont certaines sont chauffées et équipées de petits bassins de la taille d'une baignoire. Il s'agit d'un lieu où l'on peut se laver, se détendre, se faire masser, notamment dans des salles froides, frigidarium, et des pièces chauffées à températures différentes. On a le tepidarium, c'est-à-dire la salle tiède, qui est chauffée entre 20 et 25 degrés, et ce qu'on appelle la salle chaude, le caldarium ou le sudatorium, qui est chauffé entre 45 et 50 degrés. Alors le type de chauffage mis en place dans les thermes est similaire à celui rencontré dans tout l'Empire. Il s'agit du système de chauffage par hypocauste. Le principe est le suivant. Le sol repose sur des pilettes, entre lesquelles l'air chaud venant d'un ou plusieurs foyers, répartis autour des salles, circule et chauffe le sol. Des canalisations de briques creuses, qu'on appelle tubulures, se trouvant dans les murs, permettent à la chaleur de remonter. On a également retrouvé dans ces thermes une large vasque qui devait faire office de labrium, c'est-à-dire de fontaine avec jet d'eau, et qui devait se trouver dans la salle la plus chaude des bains. Les baigneurs, gênés par la forte chaleur, pouvaient alors se mouiller le visage ou les mains. Alors si la partie émergée du site de Chanlieu offre aujourd'hui une vue sur les parties les plus monumentales de cette petite ville, il faut garder à l'esprit que ce n'est que la partie visible de l'iceberg, et qu'un véritable tissu urbain, notamment composé de quartiers d'habitation et de rues, s'était développé autour. Au XIXe siècle, celui-ci a été très partiellement exploré, en mettant notamment au jour plusieurs caves d'habitation gallo-romaines. Il faut vraiment avoir en tête que le reste de la ville est toujours en partie conservé sous les champs et une partie de la forêt dominale de Compiègne, laissant ainsi un potentiel de travail considérable et des plus intéressants aux archéologues. Voilà ce que l'on pouvait dire en quelques minutes des ruines gallo-romaines de Chanlieu. J'espère que ces quelques explications vous donneront envie de découvrir ou de redécouvrir ce site. Pour rappel, ce site est en accès libre toute l'année. Sachez qu'il reste beaucoup de questions en suspens, entre autres celle de l'étendue exacte de cette ville, de son nom, comment, alors que nous nous trouvons sur un plateau, s'alimente-t-elle en eau ? À partir de quand cette ville est-elle vraiment abandonnée ? Et une partie du site a-t-il vraiment été fortifiée au début du Haut Moyen-Âge ? Seules de nouvelles campagnes de fouilles pourraient nous permettre de répondre à certaines de ces questions. Sachez qu'une partie des informations évoquées ici seront, à partir de juin prochain, disponibles sur place à partir de votre smartphone. Le service départemental d'archéologie de l'Oise, notamment avec l'aide de collégiens, de lycéens et d'étudiants de l'Oise, sont en train d'élaborer un outil de visite numérique accessible via des flashcodes disposés sur le site et qui vous permettront d'accéder sur place à des informations écrites, des vidéos originales d'explications et à des hypothèses de restitution des monuments. Par ailleurs, je vous invite évidemment à compléter votre découverte du site en allant au musée Vivenel de Compiègne, qui expose une partie des objets découverts sur le site et a récemment, en 2017, revu toute sa muséographie consacrée au site de Chanlieu. Vous y découvrirez notamment une maquette particulièrement parlante qui reconstitue en élévation le centre de cette petite ville avec les 3 monuments évoqués. À bientôt pour la suite des épisodes de l'émission Les Enfants de Chronos consacrée au hameau de Chanlieu.